Premier dimanche de l'année, accueillons-nous les uns les autres de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Une année passe, une année vient et toi tu ne changes pas. Mais pour toi, Seigneur, rien n'est jamais comme avant. Tu nous précèdes, tu nous engages à te suivre. Seigneur, entraîne-nous à ta suite. Je vous invite à vous lever. Ô notre Dieu, ton soutien pour avancer, ta force pour aimer et ton amour pour vivre, ils nous sont nécessaires. Sois au milieu de nous. Et je propose de prendre le livret qui se trouve dans le psautier et nous chantons le premier chant. Nous voici rassemblés en ton nom.
Rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'offrir la louange de nos cœurs. Alléluia, Alléluia, mon Dieu, vivant. Alléluia, Alléluia, mon Dieu. Rassemblés en ton nom, Seigneur, pour t'amener Jésus Sauveur.
Parole du prophète Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part du Seigneur. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il annonce la vie du royaume. Il interroge et bouscule. Il nous appelle à une vie nouvelle. Il élargit notre compréhension de Dieu. Il convertit nos pensées, notre regard. Sa pensée est parfois dure à entendre, mais sa parole est vérité, et la vérité rend libre. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par ses miracles, il annonce la vie du royaume, il parle à nos peurs, à nos angoisses, à nos prisons, à nos infirmités. Il nous rencontre sur le lieu de nos blessures, il nous invite à mener une vie de libéré, il nous appelle à être porteurs de sa guérison. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa mort, il annonce la vie du royaume, il nous montre le chemin des béatitudes, il nous dépouille de nos fausses richesses, il nous délivre de toutes nos morts. Sa pauvreté est une force, sa nudité est un vêtement, sa mort est notre vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa résurrection, il annonce la vie du royaume, il fait route avec nous, il nous envoie pour être témoins, il nous donne sa paix, il construit notre confiance. Il fonde notre espérance. Il nous appelle à aimer. Amen. Et en ce début d'année, nous chantons le psaume 36 qui nous rappelle la fidélité de Dieu. Ô Seigneur, ta fidélité. Page 60.
source de vie est en toi.
Prenez place. Alors pour ce premier culte de l'année, avant toute chose, je souhaite à ceux qui, j'ai pas eu l'occasion de le faire, une année remplie de bénédictions, une année de guérison et de joie. Nous plaçons notre vie sous le regard de Dieu. Je suis de glaise, tu es de soufre. Je suis de cendre, tu es de braise. Je suis de miettes, tu es de pain. Je suis de larmes, tu es de source. Je suis d'impasse, tu es le chemin. Je suis d'absence, tu es de veille. Je suis de houle, tu es de paix. Viens rouler la pierre de mes enfermements, que ta vie enfin traverse de toi à moi. Jésus le Christ, lumière intérieure. L'ange a annoncé aux bergers, n'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né votre Sauveur, c'est le Christ, votre Seigneur. Dieu nous pardonne en Jésus-Christ, il nous accueille, il fait de nous son peuple. Je vous invite à vous lever pour chanter « Tu consoles, tu pardonnes ». Pardonnez et libérez, écoutons ce que Jean rappelle avec force à ses premiers amis qui vivaient dans le désarroi, de la persécution, dans la crainte d'être infidèle à l'Évangile. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Faisons confiance à l'amour de Dieu. Amen. Transmet la nouvelle. C'est le titre du cantique. Je vous en prie, asseyez-vous. J'ai retenu deux lectures pour ce jour, parmi celles qui étaient proposées. La première, qui nous sera lue par Mélanie, ce sera dans le livre, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Et la seconde, dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 60, et ce sera lu par Yvon Serge. Avant, nous prions. Béni sois-tu, Seigneur, tu es proche, tu es insaisissable. Si nous essayons de mettre la main sur toi, tu passes au milieu de nous et tu t'en vas. Tu parles dans nos oreilles, tu parles dans nos cœurs. Paroles fugitives et inoubliables, paroles de feu et qui nous brûlent. Ton esprit souffle et transfigure nos vies, mais comme le vent, nul ne sait d'où il vient ni où il va. Tu es proche, tu es insaisissable. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Mélanie, tu es là.
Vous avez certainement entendu parler de la mission dont Dieu, dans sa bonté, m'a chargé en votre faveur. Dieu m'a accordé une révélation pour me faire connaître son plan secret. J'ai écrit plus haut quelques mots à ce sujet, et en les lisant, vous pouvez comprendre à quel point je connais le secret qui concerne le Christ. Dans les temps passés, ce secret n'a pas été communiqué aux humains, mais Dieu l'a révélé maintenant par son esprit à ses saints apôtres et prophètes. Voici ce secret. Par le moyen de la bonne nouvelle, les non-juifs sont destinés à recevoir avec les juifs les biens que Dieu réserve à son peuple. Ils sont membres du même corps et bénéficient eux aussi de la promesse que Dieu a faite en Jésus-Christ.
Notre deuxième lecture se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, nous lirons du verset 1 au verset 6. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes filles arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi, tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de madians et d'épha. Ils viendront tous de Séba et porteront de l'or et de l'encens et peupleront les louanges de l'Éternel. Amen.
Écoute, entends la voix de Dieu. Asseyez-vous. Bien que nous soyons le dimanche de l'Épiphanie, je n'ai pas conservé pour ce jour la lecture de l'évangile de Matthieu prévue. épisode qui relate la visite des mages à Jésus. Oui, j'avais déjà prêché sur ce texte lors du culte de Noël, je me suis dit, je ne vais pas reprendre ça. Alors, le mot est lâché, qu'est-ce que l'épiphanie ? Alors, il faut préciser tout d'abord que cela n'a strictement rien à voir avec la trilogie de Marcel Pagnol, Marius, César, Épiphanie. C'est pas de moi. C'est une fête qui célèbre chez les catholiques le Messie venu et incarné dans le monde et qui reçoit la visite et l'hommage des mages. Chez les orthodoxes, c'est la manifestation au monde de Jésus de Nazareth comme chef et fils de Dieu par son baptême. Et chez les protestants, c'est l'occasion de manger une galette. Or, nous avons eu l'occasion de partager une galette hier, donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une des symboliques de cette visite des mages à l'enfant Jésus. L'évangéliste Matthieu introduit par cet épisode l'idée de l'entrée dans l'histoire du salut des nations, des non-juifs. Les mages, astrologues païens, sont sensibles à la réalisation des promesses de Dieu, du Dieu d'Israël, alors que le peuple élu y reste imperméable. L'évangéliste Jean y faisait allusion en écrivant dans son prologue « La lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue ». L'idée de la conversion des nations n'est pas étrangère à la spiritualité hébraïque. Nous venons de l'entendre par la bouche du prophète Ésaïe. Vous remarquerez cependant qu'il y a une légère différence. Chez Ésaïe, il y a une vision, on peut percevoir une teinte un peu triomphaliste, voire légèrement revancharde. Les païens se tourneront vers Israël et reconnaîtront ainsi sa supériorité. Tandis que dans le Nouveau Testament, le salut échappera à Israël. Mais attention, soyons clairs, une mauvaise interprétation de cette évasion a causé tellement de malheurs. L'Église a commencé par se revendiquer comme étant le nouvel Israël. Je ne peux ni cautionner ni invalider cette prétention. Tout dépend de comment on comprend l'adjectif « nouveau ». Et on peut sans trop de difficultés faire un lien avec la Bible chrétienne. Est-ce que le Nouveau Testament disqualifie l'Ancien Testament ? Non, en aucun cas, il s'y ajoute. Il donne une nouvelle grille de lecture, mais il n'a aucune légitimité sans l'Ancien Testament, qui garde toute sa valeur, toute sa pertinence. Et c'est pour lever cette ambiguïté que, suite à d'autres, j'évite toujours d'utiliser l'expression « Ancien Testament » au profit de « Premier Testament ». Le Nouveau Testament reste le Nouveau Testament, ne devient pas le Deuxième ou le Second Testament. Mais « Ancien », souvent, a l'idée de révoquer, de réformer, même si ce terme ne nous fait pas peur à nous. De la même manière, la nouvelle manière d'être peuple de Dieu n'invalide ni ne disqualifie en rien la première. Les chrétiens ne sont pas le nouvel Israël, mais une autre façon d'être Israël. On pourrait dire un second Israël, ou plutôt un Israël en second. Alors je précise, ça ne devrait pas être nécessaire, mais hélas, il est aujourd'hui prudent de le faire, qu'il n'est pas ici question d'État d'Israël, encore moins de la politique proche-orientale, mais du titre, si on peut appeler ça, de peuple de Dieu, de peuple élu. Et pour ceux qui se posent la question, élu est à prendre dans son sens original comme choisi par Dieu. Ça n'a rien à voir avec un vote, pas plus qu'il n'y a eu le moindre processus démocratique pour choisir l'élu de votre cœur. Bon, toutes ces mises au point faites, qu'en dit l'apôtre Paul ? Certes, on attribue parfois à celui-ci des positions anti-juives, mais c'est toujours en sortant des versets de leur contexte, du développement de sa pensée, ou en oubliant le côté polémique des propos. D'ailleurs, la plupart des cas, quand il fait des allusions négatives au judaïsme ou à la loi, ce ne sont pas les juifs qui sont visés, mais les convertis païens qui se mettent à judaïser, c'est-à-dire à se comporter comme s'ils étaient juifs. Pour Paul, ce n'est pas acceptable. En bon pharisien, il aborde la confusion. Les convertis à Jésus, on ne peut pas encore parler de chrétiens, ne sont pas juifs, ils ne les remplacent encore moins. Ils sont agrégés au peuple de Dieu, au peuple élu, sous un autre statut, un statut d'adoption. C'est pourquoi ça ne pose pas de problème à l'apôtre que les disciples d'origine juive, continue de pratiquer l'ensemble des commandements de la première alliance. Pour Paul, il est clair que cette première alliance reste valide et que l'Israël historique premier continue de faire partie du salut avec un statut particulier, principal et un peu mystérieux. Paul insiste sur le fait que malgré l'endurcissement d'Israël face à son envoyé, Dieu maintient son alliance. Non grâce au mérite du peuple élu, mais parce que Dieu est fidèle à sa promesse, même lorsque ses partenaires ne le sont pas. Je vais, malgré son anachronisme dans le discours de Paul, employer le mot chrétien pour davantage de clarté et de concision, et un peu par facilité aussi. Il y a deux mots qui me semblaient particulièrement troublants et donc importants dans l'extrait de l'Épître aux Éphésiens entendu ce jour. Le premier, c'est que la traduction nous a pas fait ressortir, mais ça, bon. Le premier, c'est co-héritier. Les païens sont co-héritiers du salut. Il est très parlant. Personne ne garde tout. Personne ne remplace qui que ce soit. Il y a partage. Ce n'est pas aux héritiers de décider qui a part ou non à l'héritage, mais bien aux testataires. Mais qu'on le veuille ou non, Israël reste le fils aîné, et cela dans une société traditionnelle. Cela compte. Donc, les chrétiens ne détournent pas le torrent du salut pour se l'accaparer, mais ils bénéficient du débordement de ce salut. Ils en sont bénéficiaires en second. L'amour de Dieu déborde. Le second terme troublant est mystère. Je l'ai déjà évoqué à propos du rôle d'Israël dans l'histoire du salut, mais Paul l'utilise ici pour qualifier l'extension de la grâce de Dieu aux païens. Cette extension est mystérieuse, c'est-à-dire incompréhensible, sinon par des analogies. Et je vous en propose une. Petit, notre fils aîné, a dit un jour à sa mère, sur un ton peiné et en prenant peut-être un peu de jalousie, en parlant de la naissance de son cadet, « En fait, je ne te suffisais pas. » Donc reproche, teinté de jalousie, je vous rassure, tout ça c'est arrangé, mais non, tu ne nous suffisais pas. Mais cela n'a rien à voir avec toi, ni avec l'amour que nous te portions et te portons encore. La venue de ton petit frère n'a pas enlevé une ombre d'amour à ta part. Tout ce que tu as dû partager, c'est notre temps et notre attention. La seule chose que tu as réellement perdue, c'est l'illusion d'être le centre du monde. Mais cela, c'est pour ton bien. C'est un des mystères de l'amour que de pouvoir être donné entier plusieurs fois. Ainsi, la nouvelle alliance n'a rien retiré à la première. Le risque de notre côté, la tentation du cadet, pour ainsi dire, est celle de ne pas accepter d'être arrivé en second, et par conséquent de se proclamer aboutissement, de prendre au sérieux la boutade d'un vieil amiche. Alors on lui dit, on lui pose des questions sur sa vie, il dit « Oui, moi je suis le 12e d'une fratrie de 12 enfants. » « Oh là là !» « Ah ben elle a fait 12 enfants, oui, oui, et ben, quand elle m'a vu à la naissance, ma mère a dit « Ah ben c'est celui-là que je voulais, on peut arrêter. » Alors évidemment, lui, il le disait en plaisantant, mais parfois on le prend au premier degré et on se croit l'aboutissement. Non. Disqualifier la première alliance, c'est refuser sa limite. C'est réécrire l'histoire. Et bien que ce soit une pratique de tous les temps, y compris et surtout le nôtre, c'est une attitude mortifère. L'histoire nous l'a, hélas, abondamment prouvé. Quel est le rôle particulier du peuple juif dans l'histoire du salut universel? Cela demeure quelque peu mystérieux. Néanmoins, la survie même de ce peuple à travers l'histoire et les drames qu'il a traversés est un témoignage de la fidélité, fidélité de Dieu et des humains. Un des rôles que joue Israël, selon une de ses propres compréhensions de lui-même, est celui de prêtre parmi les nations. J'aurais bien aimé développer ce point, mais ce sera pour une autre fois. Ce serait trop long. En outre, Israël nous rappelle à nous que nous ne sommes pas le centre de l'attention de Dieu. Il nous rappelle à l'humilité. Nous venons en second. Nous ne sommes pas moins aimés pour autant. Le salut des nations est un mystère et une grâce en soi. Que le Dieu d'Israël ait voulu sauver les peuples qui ne lui appartenaient pas est en soi un mystère et une grâce. Que ce salut s'étende à toi, à moi, est un autre mystère, ni plus ni moins surprenant. L'existence même de la grâce est une grâce, avant même de s'appliquer à nous. En guise de péroraison, d'exhortation, de conclusion, en cette période de l'année où il est coutumier de prendre de bonnes résolutions. À quoi donc vais-je vous inviter? Eh bien, à ne pas vous mettre en concurrence pour l'amour de Dieu, tels des enfants jaloux se disputant l'affection de leurs parents. Bien sûr, il est loisible, souhaitable, fructueux de comparer, de dialoguer, de réfléchir aux pratiques des uns et des autres. Mais il n'y a pas de concurrence. L'amour de Dieu est semblable à un fleuve qui déborde et qui emporte tout sur son passage. Il y en a pour tout le monde. Il est important de le rappeler en ce mois de janvier qui porte la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. La course à la préférence paternelle est une voie de mort. Les parents détestent voir leurs enfants se disputer. Acceptez donc d'être les cadets de certains et les aînés d'autres. Vivre en frères et sœurs dans l'amour et l'acceptation est aussi une grâce, une des plus importantes d'ailleurs. Puis cette résolution, ne pas subir le sort des autres, c'est-à-dire d'être oublié dès le 8 janvier, et comme le disait le prophète Ésaïe, alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Amen. Je vous invite à chanter « Veille et prie », cantique 4604, page 717.
Lève-toi, va de l'avant.
Je vous propose de nous unir dans la confession de la foi. Elle se trouve dans le petit papier à la fin de votre cantique. Et nous le dirons ensemble, le numéro 2. Celui qui dit, voilà, qui commence par « Je crois en Jésus-Christ ». « Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s'est fait homme pour que nous ayons pardon, joie, salut. Je crois qu'il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort et l'assurance de notre résurrection. Je crois qu'il reviendra dans la puissance et la gloire comme il est venu dans la faiblesse et l'humilité. Par lui, je crois en Dieu, notre Père, qui nous prend pour ses enfants et nous aime comme il aime Jésus-Christ. Je crois en l'Esprit Saint qui demeure en notre esprit et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu et qui guide l'Église par l'Évangile et nous révèle la gloire de Jésus-Christ. Je crois l'Église du Christ, secrète et universelle, visible et invisible, pécheresse et pardonnée. Je crois que tous les humains sont liés à Jésus-Christ. Je crois que le royaume de Dieu est notre commune espérance. Amen. Prenez place. Je n'offrirai pas au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est le temps du don, le moment de l'offrande. Seigneur, reçois favorablement ce signe de notre reconnaissance. Nous l'offrons pour ta gloire et pour le service de nos frères et sœurs. Amen. Quelques annonces, quelques nouvelles.
Bonjour à chacun, mes meilleurs voeux à chacun également, et de paix et de tranquillité surtout. Et puis, merci pour pour les dons, pour votre générosité en 2023. Merci à Mélanie et Yvon Serge qui vous ont accueillis et qui ont préparé cette table. Merci à Claude Françoise pour la musique. Merci à Vincent pour ta prédication, pour ce culte. Voilà, c'est... Cette semaine, il y a la chorale mardi à 19h15. Mercredi, nous prions à 18h. Et sinon, pour cette semaine également, et le conseil presbytéral se retrouve mercredi. Samedi prochain, il y a un culte à 18h. Voilà, donc il y aura deux cultes la semaine prochaine. Un culte le samedi à 18h et un culte le dimanche à 10h. Voilà, donc vous aurez le choix. Le CERA m'a demandé de vous rappeler qu'il y a le goûter avec le partage de la galette le 16 janvier à 15h. Voilà, tirage des reines et des rois. On peut peut-être dire tout de suite les amitiés judéo-chrétiennes qui se retrouvent le 17 avec comme thème annuel toujours les figures marquantes, figures manquantes, faiseurs de paix. Voilà, et puis il y aura la célébration œcuménique le mercredi 24 janvier à 19h, non pas à l'église Saint-Maurice comme c'est annoncé, mais ici au temple. Voilà. Et puis, ça va être bon pour moi. Il y a les scouts aussi.
Juste avant de passer la parole aux scouts, je voudrais que vous ayez dans vos prières une pensée pour Jean-Luc, je crois, son prénom. C'est un des prêtres de l'église vieille catholique. Jean-Pierre, qui est aussi le coordinateur national. Et il a fait d'abord un infarctus, puis un AVC. Et du coup, son pronostic, disons, n'est pas des plus optimistes. Pour même dire qu'il est carrément pessimiste. Donc, c'est une communauté qui est fragile, qui manque dramatiquement de prêtres. Donc, c'est outre la perte personnelle, c'est aussi une épreuve communautaire. Donc, pensez donc à Jean-Pierre et à sa communauté dans vos prières. Et donc, maintenant, les scouts, il y a une activité toute prochaine. Et c'est Mathilde et Marc Thomas qui vont vous en parler.
Bonjour à tous. Donc, nous sommes les scouts éclaireuses et éclaireuses unionistes de France. Nous sommes de la branche aînée de l'année 2005 des Énergiques. Et d'abord, nous souhaitons remercier la paroisse de nous avoir accueillis ce week-end et de nombreuses fois, et remercier celles et ceux qui nous ont aidés et supportés dans notre projet. Merci beaucoup. Et donc, justement, ce projet, nous le présentons cet après-midi au temple à 13h. Et avant, nous partageons un repas où nous avons préparé des crêpes dans la salle en haut où vous êtes conviés. Merci à tous.
Merci.
Notre église soutient l'ordre de Malte et actuellement, ils ont besoin de gants, bonnets, chaussettes. Pour ce qui est veste, pullover, l'ordre de Malte est en coordination avec d'autres associations d'Annecy. Ils ont ce qu'il faut. Je mettrai une corbeille à l'entrée et quand vous passerez, vous aurez des gants, des bonnets, écharpes. Merci du soutien de notre Église pour l'ordre de Malte.
Je prends la parole pour continuer ce que Pierre nous a annoncé tout à l'heure. Donc au nom du conseil presbytéral et en tant que trésorier, je suis très heureux de vous annoncer que votre générosité a été extraordinaire l'année dernière. Jusqu'après deux années de déficit, nous avons un léger excédent. Donc merci à toutes et à tous pour votre grande générosité.
Bonjour à tous, donc je suis Olivier Achkar, je suis le CGL du groupe local des éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, qui regroupe donc les enfants entre Annecy, Chambéry, en passant par l'Avent, Pays Savoyard et Aix-les-Bains. Donc moi je suis un des parents investis dans le groupe et je suis un lien avec tous les intervenants. Et donc je voulais remercier donc la paroisse pour son aide, pour le prêt du local, pour le matériel et aussi pour l'aide financière lors du Noël en fait, où il y a eu des couronnes confectionnées et une vente faite avec les jeunes. Voilà. Et juste pour rappeler, donc les éclaireurs, pardon, et les éclaireurs et les éclaireuses unionistes de France font partie donc du scoutisme français. Et donc le scoutisme français, juste pour un petit rappel, c'est une activité donc pour les jeunes et les moins jeunes aussi, et qui se concentre surtout sur le développement personnel du jeune, aussi de son développement au sein du groupe, et aussi l'accompagner dans une sorte de vie spirituel. Voilà. Merci à tous.
Donc, on vient de nous parler des couronnes de l'Avent. Donc, ben, Noël, l'Avent, tout ça, c'est fini. Ben, si vous êtes en train de démonter vos couronnes, ben, merci de les ramener, les supports, pour qu'on puisse les réutiliser. Merci.
Nous allons maintenant partager le pain et le jus de raisin, que je nommerai désormais vin. Certains transforment l'eau en vin, moi je me contente de nommer vin le jus de raisin. Chacun, chacune est la bienvenue s'il reconnaît Jésus comme sauveur, même s'il se sent indigne, même s'il ne fait pas partie de cette communauté précise, elle est la bienvenue. Nous nous réunirons en cercle, des conseillers feront passer le pain puis le vin, et chacun le consomme au moment où il le reçoit et repose son petit gobelet immédiatement. Voilà. Je vous invite aussi à faire le cercle avec votre livre de chant, puisque nous terminerons la célébration et il nous reste un cantique à chanter. Sauf si vous connaissez par cœur, vous n'avez pas oublié de le prendre. Non, non, mais je vous le dirai dans mon fruit, non, mais je vous explique avant pour pas interrompre.
Test, ça marche. Parole du Seigneur, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Père, il est vraiment juste et bon, c'est notre joie et notre salut de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est celui que les prophètes avaient annoncé, celui que Marie attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des humains. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière, rempli d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tout le peuple des croyants, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Et nous chantons « Grain de froment ». Voici comment notre Seigneur institué son repas. Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe de vin et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang qui garantit l'alliance de Dieu. Il est versé pour que beaucoup soient pardonnés. » Nous nous rappelons que l'enfant de Noël est devenu un homme. Il a prêché, annoncé la bonne nouvelle du royaume, il a été rejeté, il est mort, il est ressuscité. Il invite chacun et chacune à le suivre. Dieu notre Père, nous te prions, que son Saint-Esprit nous permette de communier par la foi au corps et au sang de Jésus. Jésus, lumière du monde, viens nous éclairer. Jésus, source de guérison et de vie, viens nous libérer. Jésus, prince de la paix, viens habiter en nous. Rassemble-nous tous dans ton royaume. Viens, Seigneur Jésus, viens bientôt. Heureux les invités au repas du Seigneur, voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Je vous invite. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Mais toi, tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Tu nous as reçus à la table de ton Fils, tu nous as nourris par sa présence. Fortifie notre foi, augmente notre amour les uns pour les autres. Permets que nous travaillions dans le monde à ton service et pour ta gloire, unis dans la paix et dans la joie de l'Esprit Saint. Exauce-nous par Jésus-Christ, notre Sauveur.
Amen. Amen.
Et je vous invite à vous unir dans la prière d'intercession. Seigneur, j'aspire à la sérénité. J'aimerais me vider de mes préoccupations, de mes soucis, être libéré de mes tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, recevoir la paix que tu donnes. Je te le demande, donne-moi ta paix, maintiens-moi dans ta paix. Pour tous ceux que je connais, les inquiets, les agités, les révoltés, pour les pacifiés, les détendus, les équilibrés, et pour la multitude des êtres humains que je ne connais pas, souvent fatigués et lassés. Je te le demande, donne-leur ta paix. Maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où on reçoit et où on donne cette paix, où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Ce matin, j'ai voulu faire, Seigneur, la liste des conflits de par le monde ouverts en ce moment même. La liste était tellement longue. Il y avait ceux que l'on connaît parce qu'ils nous sont proches et nous concernent. Il y avait ceux que j'avais oubliés, tellement ils s'éternisent. Il y avait ceux dont je n'avais jamais entendu parler, parce que je ne m'y suis pas intéressé, parce que d'autres ont décidé que ça ne me concernait pas. Seigneur, que cette année qui débute soit une année où cette liste se rétrécit par des résolutions pacifiques. Nous te prions pour tous les conflits de notre société également, de nos communautés et de nos familles. Seigneur, inspire sagesse et intelligence à chacun et à chacune, et principalement aux décideurs, afin que tous les êtres humains puissent vivre en paix. Amen. Alors, pour ce premier dimanche, pour terminer ce culte du premier dimanche de l'année, je vous propose de vous faire votre horoscope. Si vous êtes né entre le 1er janvier et le 31 décembre, alors, vous êtes né sous le signe de la grâce de Dieu. Vie quotidienne. C'est vrai que tout a l'air compliqué, mais ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, pour de quoi vous le vêtirez. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. Amour. Rien ne peut vous séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Voyage. Soyez ambitieux et confiants. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Météo, vous connaîtrez cette année des tempêtes intérieures et des moments de dépression. La pluie comme la sécheresse seront certainement au rendez-vous. Mais si vous construisez votre maison, votre vie, vos projets sur le roc, alors votre maison ne s'écroulera pas. Santé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais est la vie éternelle. Enfin, argent. L'agence de notation divine vous maintient son triple AAA, malgré toutes vos angoisses, car Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse, par Jésus-Christ. En attendant, que Dieu vous bénisse et vous garde. Allez dans la paix de Dieu. Amen. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Oui, mais du coup, j'ai mis, parce que la triple notation AAA, ça va pas.